que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Nous parlons à présent du virus Ebola. Vous savez, ces virus continuent à faire des victimes à Djira, village situé à près de 25 km de Boyindé, au centre dans la province de l'Équateur. Les spécialistes recommandent le respect des consignes en ce qui concerne notamment la prise en charge médicale des personnes contaminées. Idem pour la manipulation des personnes décédées des suites de cette fièvre hémorragique. Alors, quelles sont les précautions à prendre? Comment prévenir cette maladie? Comment éviter ce virus d'Ebola? On en parle avec nos invités, Nathalie Guélène, coordinatrice du pôle urgence, d'urgence à MSF Kinshasa, et docteur Papis Lema, médecin responsable d'antenne MSF à Kinshasa, et notre invité. On commence avec vous, docteur Papillet. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, jeudi.
Alors, vous revenez de Boyindé Centre où sévit cette maladie. Pouvez-vous nous dire en général comment ça se passe là-bas de l'autre côté?
Ok, donc ça fait 3 semaines de cela que nous avions été pour une mission d'évaluation. Donc, c'était pour pouvoir confirmer ou infirmer l'épidémie de FHV, donc fièvre hémorragique virale Ebola, dans la zone de santé de Boyindé, dans l'axe Djira dont vous faites allusion. Donc, c'est comme ça qu'une équipe MSF a été déployée sur terrain et on a effectué des prélèvements qui, après, ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une épidémie de fièvre hémorragique à Ebola.
Maintenant, aujourd'hui, actuellement, combien de personnes sont touchées par cette épidémie?
Ok, à ce jour, selon le ministère de la Santé, on parle d'une 60aine de cas et une 30aine de décès, parmi lesquels 14 cas confirmés au laboratoire.
Au laboratoire. Alors, c'est quoi le virus Ebola?
Ok, les virus Ebola, c'est un virus. Donc, c'est un virus qui fait partie de virus de la famille de Filoviridae et qui est composé en fait d'une membrane lipidique et autre. Et ce virus cause la maladie dite Ebola. Et c'est une maladie donc virale parce que causée par un virus, une maladie qui est très meurtrière et très contagieuse. Et cette maladie se manifeste par la fièvre, certains symptômes dits symptômes généraux du genre céphalée ou maux de tête, asthénie intense, inappétence, donc manque d'appétit, douleur articulaire, douleur musculaire, douleur abdominale. Et dans une deuxième phase de cette maladie, il y a diarrhée, vomissement, et 30 à 50% de personnes pourront développer dans les dernières phases des signes hémorragiques. Hémorragique, ça veut dire saignement au niveau des yeux, saignement au niveau de nez, de la bouche, et diarrhée sanglante, et voilà.
Et comment la maladie se transmet-elle, docteur Papis?
Ok, la maladie se transmet par un contact direct avec les fluides corporels, c'est-à-dire qu'une personne qui souffre d'Ebola, ses humeurs ou ses liquides, c'est-à-dire les larmes, morves, salive, sueur, urine, sel, contiennent le virus. Et d'une manière assez simple, l'homme s'infecte en touchant au fait ses différentes humeurs ou liquides corporels et ramène le virus au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de la bouche ou au niveau de la peau qui est lésée, donc une blessure au niveau de la peau. Donc c'est comme ça que l'on attrape le virus Ebola.
Donc le fait de se saluer avec une personne contaminée, ça peut transmettre la maladie.
Exactement, parce que si au niveau de la sueur qu'il y a au niveau de la main de la personne qui est contaminée, il y a le virus. Donc en se serrant la main, et après, je dis bien après, si on ramène ses mains au niveau des yeux, au niveau de la bouche, au niveau du nez ou au niveau d'une peau qui est lésée, oui, là on peut attraper la maladie.
D'accord. Alors Nathalie, vous êtes coordonnatrice du pôle d'urgence. Alors comment s'organise l'urgence à MSF pour contenir cette maladie?
Voilà, tout d'abord, le point le plus important, c'était donc de détecter cette épidémie, d'aller sur place et de confirmer que c'est bien de l'épidémie d'Ebola, parce que ça demande des précautions extrêmement strictes pour nos équipes. C'est une maladie qui est très, très contagieuse. Et donc, il faut en tout cas équiper nos équipes et le personnel de santé sur place du matériel de protection nécessaire. Et cela, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est bien protéger nos équipes pour pas que le personnel de santé soit infecté. Donc c'est la
Et sur place vous avez une équipe de combien de personnes?
Voilà, sur place nous avons maintenant une personne on a plus de 40 personnes sur place qui sont déployées entre Lokolia et Boende pour venir en aide à la population pour contenir cette épidémie. Donc en termes de prise en charge, donc on a un centre de traitement Ebola à Boende et un centre de traitement Ebola à Lokolia. Donc à Lokolia, nous avons un centre qui peut prendre en charge 40 personnes et à Boende 10 personnes. S'il y a besoin, on peut amplifier également ces structures.
Voilà. Vous pouvez amplifier ces structures. Nous avons déjà des auditeurs en ligne qui veulent participer. C'est un forien, nous appelle des Kananga. Mayanga et Takindu, Omar Kigalo et Takinshasa. Des questions et préoccupations, appelez-nous. 081-890-63-94. C'est un forien, Bidouaya, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Quelle est votre question, c'est un forien?
Oui, je voulais demander à l'invité, aux invités pour qu'ils puissent me dire pendant la période scolaire, comme les enfants sont déjà de retour à l'école, on sait bien que les gens qui ont en les grands consommateurs de mangue. Et les mamans qui vendent les mangues n'ont pas le droit de voter pour laver ces mangues. Chaque personne qui vient, elle choisit la mangue qu'elle veut peut-être. Elle a déjà touché une autre mangue qu'elle ne va pas prendre. L'autre personne qui viendra va toucher cette mangue-là, peut-être va la prendre. Qu'est-ce que l'invité peut nous dire pour prévenir cette situation? Parce que c'est une grande pratique qui peut transmettre ces virus. Je vous dis
merci. Merci. Mayanga de Kindou, bonjour.
Bonjour, merci les journalistes. Et bon, je dis aussi bonjour à nos invités.
Mayanga, quelle est votre question?
Oui, je vais poser des petites questions. La première, de savoir que l'Ebola, c'est une maladie qui est causée par un virus. Alors, la première question est de savoir qu'est-ce que le gouvernement national a déjà prévu pour lutter contre cette épidémie. Parce que ça risque de répandre dans toute la République démocratique du Congo et ça sera grave. Le cas de l'Équateur a déjà fait beaucoup de jours, beaucoup de massacres, beaucoup de morts. Nos citoyens meurent là-bas.
D'accord.
À un moment où c'est encore dans une province.
D'accord. Alors, oui, ok, on a compris. La deuxième question, Mayanga. La deuxième question, passez directement à la deuxième.
Oui, la deuxième question. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui sommes loin de l'Équateur, pour éviter cette épidémie qui s'appuie aussi à arriver ici, chez nous, dans la ville de Kindu, Maniema.
D'accord. Merci. Virus Ebola, comment prévenir cette maladie? On en parle avec nos deux invités, Nathalie, coordinatrice du pôle d'urgence à MSF à Kinshasa, et Dr Papis Lamé, médecin responsable d'antenne MSF à Kinshasa. Vous êtes intéressé? Appelez-nous au 081-890-63-94.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Nous parlons aujourd'hui du virus Ebola, comment prévenir la contamination. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je dis Kachamé, merci de la parole que vous m'accordez.
On vous écoute.
Oui, j'ai quatre questions. La première, je voudrais savoir, je dis Kachamé, à part les contacts avec l'animal infecté, à part les contacts avec les personnes ou leurs urines ou quoi infectées, est-ce qu'on peut aussi attraper le virus par voie respiratoire? Je m'explique, quelqu'un jette sa salive alors qu'il est malade et que ça s'évapore. Est-ce qu'en respirant, c'est là on peut l'attraper? Deuxième question, par rapport toujours avec contact avec les animaux, je récupère la question qui a été posée la fois dernière. Il semble que lorsque les chauves-souris mordent les animaux au niveau de la forêt, lorsqu'ils viennent également mordre les animaux domestiques, ils peuvent les infecter un virus qui est au niveau des forêts. Est-ce que si une chauve-souris mord un animal infecté par le virus Ebola, c'est que la même chauve-souris vient dans la ville mordre un chien, par exemple, lorsqu'on est en contact avec cet animal domestique, peut-on aussi attraper le virus Ebola? Troisième question. J'ai suivi par la voie de médias internationaux. Il semble qu'on a trouvé de médicaments pour arrêter ces virus. Est-ce que ce médicament aujourd'hui peut-il être transféré en Afrique? Et dernière question. Est-ce qu'on peut être guéri du virus Ebola? Voici mes quatre questions jeudi. Je vous remercie.
Bien, merci. Edgar Lukamba de Kananga, bonjour.
Bonjour, jeudi.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, jeudi. J'ai juste que c'est une émission de sensibilisation. Jeudi, veillez à ce que toutes nos questions vraiment soient répondues par nos invités.
D'accord.
La première préoccupation est de savoir, on sait que 20% des personnes infectées par le virus Ebola ne meurent pas. Est-ce que le virus Ebola confère une immunité définitive, c'est-à-dire une personne qui a souffert ne peut plus souffrir de cette maladie? Deuxième, on sait aussi que le malade devient contagieux dès l'apparition des premiers symptômes, c'est-à-dire après la période d'incubation, et la contamination s'est faite à travers les liquides biologiques. Alors, parmi les liquides biologiques, le sang, la salive et autres, lesquels, dans quel liquide la charge virale est plus élevée? Et lorsqu'une personne, autre question, lorsqu'une personne est contaminée, la période d'incubation est de 3 à 21 jours. Alors, où se passe cette incubation? Est-ce qu'il y a une prédilection pour certains tissus de l'organisme? Et pour terminer, jeudi, toujours avec la contamination peut être aussi indirecte à travers les objets contaminés. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la durée de vie du virus en dehors de l'organisme? Merci beaucoup, jeudi.
Bien, merci Edgar. Voilà, ce thème intéresse beaucoup les auditeurs. Idriss est à Kindu, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Jobi, bonjour à tous les auditeurs et ainsi qu'à l'invité.
On vous écoute.
J'ai une petite préoccupation monsieur Jobi.
Allez-y rapidement.
Pourquoi seulement cette maladie se focalise seulement en Afrique, l'Ebola? Et la deuxième, il y a des personnes... Donc, en suivant les interventions de nos invités là-bas, ils avaient dit qu'il y a des signes, il y a plusieurs signes qui déterminent l'Ebola, notamment la fièvre, la diarrhée. Maintenant, il y a d'autres personnes qui souffrent de il y a d'autres personnes qui présentent ces maladies-là. Maintenant, comment distinguer ce que cette personne souffre de la diarrhée et de l'Ebola, ou soit que c'est d'autres maladies? Merci.
D'accord, merci. Alors Richard Mukelenge de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à nos invités.
On vous écoute.
Oui, j'ai une question et préoccupation aussi. La virose par Ebola n'est pas la seule virose qui tue. Il y avait la grippe aviaire qui avait tué. Moi je voudrais que les invités nous disent de façon globale comment protéger une ménagère qui a le risque de se contaminer avec d'autres viroses. Moi, je parle de l'utilisation de gants de ménage imperméables. Ça existe en ville. Merci beaucoup.
Bien, merci. Monsieur Richard Mukelenge, voilà, autant bon, plusieurs questions des auditeurs. Je reviens à nos invités. Nathalie, Saint-Forien de Kanangadi, c'est la rentrée scolaire. Les enfants rentrent à l'école et parfois ils vont manger des mangues qui ne sont pas nettoyées. Et les mamans ne prennent pas le soin de nettoyer ces écoles-là à Kananga. Est-ce qu'il y a des risques d'attraper la maladie à ce moment-là?
Là, comme pour toute maladie, pour toute prévention en termes d'hygiène, il est nécessaire de laver les aliments avant de les consommer. Ça vaut pour, pas pour Ebola particulièrement, mais je pense pour toutes les maladies en général. Donc, conseil, oui, laver vos aliments avant de les consommer.
D'accord. Omar, il y a Mayanga qui a parlé des précautions, dispositions prises au niveau du gouvernement. Nous avons représenté par le gouvernement congolais. Je crois qu'on aura quelqu'un du gouvernement qui va en parler. Alors, Omar Kigalo dit, à part les contacts avec ces animaux, est-ce qu'on peut attraper la maladie par voie respiratoire, docteur Papis?
Non, la maladie Ebola ne s'attrape pas par voie respiratoire. Et je profiterai également de cette question pour répondre également à l'un de nos auditeurs qui a aimé savoir la durée de vie du virus en dehors de l'organisme.
Oui.
Mais c'est vrai que le virus est assez fragile en fait. Donc sa durée de vie, on ne peut pas vous dire exactement de combien de temps, mais on dira plutôt quelques heures en dehors de l'organisme. C'est un virus qui est facilement tué avec le soleil, donc le rayon ultraviolet. C'est un virus qui est tué assez facilement avec le savon. parce qu'il est composé d'une membrane lipidique et les solutions chlorées, les détergents et autres tuent également assez facilement le virus. Donc c'est un virus qui reste assez fragile en dehors de l'organisme. Mais c'est vrai que dans des circonstances humides ou dans l'humidité, le virus peut durer un peu plus longtemps.
Voilà. Oui, Nathalie.
Oui, je voudrais ajouter que, comme on parlait de transmission hein, par contact, une fois qu'on serre la main, c'est pour ça qu'on recommande aussi de se laver les mains avec des solutions chlorées à tout moment. Et donc de ne pas se toucher le visage ou d'autres personnes avec des mains qui ont été en contact potentiel. Donc se laver les mains avec des solutions chlorées, c'est vraiment un message qu'on peut faire passer à tous.
D'accord. Alors, Omar parle également d'une chauve-souris qui va mordre un chien, un animal domestique. Est-ce qu'il peut lui communiquer la maladie, docteur Papis?
Ok, mais c'est vrai que aujourd'hui, le réservoir du virus n'est pas vraiment connu. C'est vrai que les chauves-souris sont incriminées. Voilà, c'est encore des études qui doivent être faites.
Menées là-dessus.
Qui doivent être menées là-dessus, je voulais dire. Mais voilà, c'est vrai que la chauve-souris dans la forêt, une chauve-souris qui est réservoir ou qui serait réservoir du virus, en mangeant un fruit dans la forêt, le fruit peut tomber et un autre animal ramasse le fruit, le mange, cet animal-là tombe malade et l'homme en contact avec cet animal-là peut tomber également malade, souffrir de l'Ebola et après c'est la contagion interhumaine, l'homme qui contamine les autres hommes. Maintenant, parler d'une chauve-souris qui viendrait mordre un chien plutôt,
oui.
Déjà que jusque-là ça n'a pas été prouvé que le chien développait la maladie Ebola, donc je pense qu'il n'y a pas de risque de ce côté-là, mais j'insiste, toutes les chauves-souris ne sont pas porteuses de ce virus. Déjà, je le redis encore, qu'on ne sait pas encore le réservoir à virus, si c'est exactement quel animal.
Mais Nathalie, il a parlé du vaccin. Il semble que dans les pays de l'Amérique du Nord, on a trouvé le vaccin. Alors, il veut savoir pourquoi ne pas amener à porter ce vaccin ici.
Oui, alors il y a des tests qui sont faits en ce moment. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de résultats sur l'efficacité de ce traitement et donc il n'a pas été approuvé officiellement. Et donc ça, c'est une décision de toute façon du ministère de la Santé et de l'OMS d'insérer ce traitement expérimental au Congo.
Une autre question, peut-on guérir d'Ebola, docteur Papis?
La question est affirmative. On peut guérir d'Ebola. C'est vrai que aujourd'hui il n'y a pas un traitement curatif contre les virus et Ebola, mais des gens en guérissent. Donc c'est comme ça que dans les centres de prise en charge que nous avons mis en place, que ça soit à Bouindé et à Lokolia, je vous dirais même que à Lokolia, au moment où j'ai quitté, on a laissé deux patients convalescents qui n'étaient pratiquement plus du tout symptomatiques. Mmh. Et ces deux personnes-là, on est plus que sûr qu'ils sont sortis d'affaires et qui seront guéris, puisque je pense même qu'on les a peut-être sortis après mon départ, puisque je suis revenu le vendredi passé.
Et Edgar nous dit que 20% des malades ne meurent pas, d'après lui, et que lorsque vous souffrez, vous avez déjà souffert d'Ebola dans le passé, vous développez une certaine immunité.
C'est vrai qu'on développe une certaine immunité après avoir souffert de maladies virales, notamment la rougeole et Ebola également. Mm-hmm. Mais on ne sait pas dire aujourd'hui exactement cette immunité conférée dure combien de temps. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas répondre à cette question.
Ok, il pose une autre question. Dans quel type de liquide la charge virale est beaucoup plus forte?
Ok, par rapport à cette question, jusqu'à là, on n'a pas de précision par rapport à ça.
Oui.
Mais c'est vrai que au niveau du sang, il y a une charge virale assez élevée. Mais bon, ce qui est important de savoir, c'est que c'est en contact avec toutes les sécrétions biologiques contenant le virus qui nous amène à avoir ce risque d'attraper la maladie. Donc ce n'est pas nécessairement que ça soit le sang, ou ça soit le sperme, ou ça soit le morve ou salive. Mais c'est de savoir que voilà, toutes les substances, les sécrétions organiques,
oui,
contiennent le virus pour les malades qui ont l'Ebola.
Oui, Nathalie.
Oui, c'est pour ça aussi qu'on met vraiment en garde la population par rapport aux enterrements. Puisque quand on enterre une personne qui est décédée, il y a, culturellement, on touche le corps. Et donc ça, ces personnes qui touchent le corps sont vraiment un risque. Donc nous faisons passer le message qu'ils préviennent bien les autorités locales aux Médecins Sans Frontières lorsqu'il y a un corps décédé pour qu'on puisse venir jusque dans la communauté pour désinfecter le corps et aider la population à traiter comme il faut ce corps avec toutes les précautions nécessaires afin que les personnes qui participent à l'enterrement ne soient pas contaminées. C'est très important.
C'est très important. Alors, où se passe l'incubation de la maladie? C'est la question d'Edgar. Il a posé une autre question. Il veut savoir dans quelle partie de l'organisme se fait l'incubation.
Ok, mais là, ça devient un peu plus technique parce que dès que le virus entre dans l'organisme, il se dirige notamment vers le monocyte, les cellules mononucléaires. Et puis après, c'est vers le vaisseau sanguin, endothélium vasculaire également. Mais également une prédilection pour les cellules du foie et autres. Mais voilà, ça devient beaucoup plus technique. Et voilà, le plus important pour nous est de savoir que l'incubation, c'est la période d'incubation où la personne qui a été en contact avec le malade, donc c'est entre 2 et 21 jours, plus ou moins. Pendant cette période-là, on précise, la personne n'est pas du tout malade et la personne n'est pas du tout contagieuse. C'est lorsque la personne commence à présenter le premier signe de la maladie, plus souvent c'est la fièvre, c'est à ce moment-là que la personne devient contagieuse.
D'accord. Avant, on va accueillir d'abord Arsène qui nous appelle de Dar es Salaam en Tanzanie. Arsène, bonjour.
Oui, bonjour. Je remercie nos invités de Ossidio.
Oui.
Et nous vous captons sur le net, mais difficilement. Bon, en fait, j'ai trois questions que je pose à nos docteurs Ossidio. Vous savez, notre pays est politisé trop d'histoire. Et je pouvais nécessairement souhaiter, si est possible, les docteurs qu'ils puissent nécessairement initier des lois au Parlement. Bon, pour protéger des personnes
attaquées
par l'Ebola.
Arsène,
s'il vous plaît,
il
y a soit de l'incrimination, des injures aux personnes qui seront convalescentes de cette maladie. La deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de renforcer d'autres préventions? Parce que vous savez, les enfants, lorsqu'ils seront dans les écoles, il y aura des contacts directs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de renforcer les médicaments en qualité de similaires pour essayer soit de prévenir, surtout les enfants, j'insiste. Et la troisième question, je pouvais nécessairement souhaiter que notre pays accepte que l'Ebola était entré au pays et on renforce notre capacité. Parce que vous savez, vous avez venu d'évoquer que il y a 60 cas, donc il y a 60 personnes. Sur 60 personnes, il y a déjà 30 personnes. Donc, vous savez, nous atteignons presque les moitiés de toutes ces personnes qui sont déjà contaminées.
Arsène, soyez bref. Les autres attendent. Soyez bref, Arsène.
Donc, c'était ça ma question.
D'accord. Oui, merci.
Et c'est seulement, j'encourage notre ministre de Santé parce qu'il...
Merci beaucoup. Merci. Pascal, vous êtes à Calimi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Denis Janel Cachemar.
Alors, ne prenez pas beaucoup de temps comme Arsène. Hein. Soyez bref, on vous écoute, Pascal.
Merci beaucoup. Oui. J'ai trois préoccupations à demander à mes deux entités qui sont dans les studios. La première, c'est, selon les dires, le virus Ebola émane de deux aliments, donc les singes et la chauve-souris. Ma question est celle-ci. Comment ces deux entités ont bien les chercheurs avait actuellement découvert cette maladie venue de ces uniquement de ces deux animaux? C'est ça ma première préoccupation. Et ma deuxième préoccupation est quand la personne est guérie, est-ce que cette dernière restera avec l'handicap au niveau mental tout comme au niveau physique? Et ma troisième préoccupation, comment prévenir pour éviter cette maladie dans notre dans notre communauté gigantesque congolaise.
D'accord, merci. Pascal Adjo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Radio Kassi, bonjour aux invités.
On vous écoute, quelle est votre question, Adjo?
Oui, j'ai trois petites préoccupations.
Oui.
La première, c'est de savoir le nom d'Ebola, l'origine de ce nom-là. Et la deuxième question, et celle-ci, quelle est la différence entre ce virus d'Ebola qui est ici chez nous avec le virus qui est dans qui se vit actuellement
en Afrique,
en Afrique de l'Ouest,
hein. De l'Ouest. Oui.
Parce qu'on nous dit qu'il y a des situations de ils n'ont pas le même origine. Alors, quelles sont les différences?
D'accord, merci.
La troisième question, oui, c'est celle de savoir pourquoi les populations qui vivent dans des milieux ruraux ne sont pas suffisamment informées de ce virus. Parce que vous savez très bien que ce n'est pas la première fois que nous pouvons vivre de telles catastrophes.
Merci, Joe. Faustin Ngwanda, vous êtes à Kikwit. Bonjour. Voilà, désolé, il n'est plus là. Je reviens à vous, à nos invités. On va répondre rapidement. Il y a beaucoup de questions, les auditeurs. Revenons à la question de Idriss, Nathalie. Idriss nous dit pourquoi c'est toujours en Afrique qu'Ebola sévit et pas ailleurs. Comment expliquer cela?
Parce qu'en Afrique, c'est là où le virus est né, c'est là où il se développe. Il y a des maladies qui sont plus développées en Afrique, il y en a d'autres qui sont plus développées en Europe. Il y a pas de, on ne cible pas sur la carte les pays où se développent les épidémies. Malheureusement, c'est en Afrique que s'est développée cette épidémie-là.
Mmh. Alors, une autre question, Idriss, vous avez présenté les symptômes d'Ebola tout à l'heure. Il dit qu'il y a aussi d'autres maladies qui présentent les mêmes symptômes. Alors, comment établir la différence? Comment savoir qu'il s'agit d'Ebola ou pas?
Ok.
Docteur Papis.
Mais c'est exactement vrai, ça prouve que nos auditeurs nous ont bien suivis.
Mm-hmm.
Donc la maladie Ebola se manifeste dans la première ou dans les premières phases comme le paludisme, comme la fièvre typhoïde ou même la shigellose. Maintenant, pour faire la différence, il y a tout ce qui est contexte épidémiologique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, à Kinshasa, une personne qui présente la fièvre, douleur abdominale et les autres symptômes, mm-hmm. on ne pense pas du tout à une fièvre hémorragique virale. Mais maintenant, si on est à Bouéndé, où on a des personnes qui sont dans l'axe Djéra, qui présentent fièvre et voilà au moins 3 symptômes généraux, maux de tête ou autre, là, on se dit, OK, c'est un cas suspect. On peut dire, ok, on peut suspecter la fièvre hémorragique pour ces malades. Maintenant, pour confirmer ou infirmer, on a besoin de faire le test de laboratoire. Donc, c'est plutôt le laboratoire qui va confirmer que c'est un cas c'est un cas confirmé d'Ebola.
Et sur place là-bas, à l'Ocolia, vous avez maintenant un labo mobile pour pouvoir faire des tests.
Il y a
place,
un laboratoire mobile à l'Ocolia et qui dessert également la cité de Bouéndé en termes de d'analyse des échantillons.
D'accord. Docteur Richard nous dit que les ménageurs, par exemple, peuvent se protéger en portant des gants. Nathalie, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Les ménagères peuvent porter des gants pour assurer leurs tâches à
Est-ce
la maison.
Est-ce que ça protège suffisamment contre ces virus?
Maintenant, c'est comme on dit, hein, le virus, il se transmet par contact direct avec les liquides, donc avec les vomis, avec la sueur, avec les larmes ou autres. Donc, si une personne doit manipuler ces liquides sur des personnes suspectes d'Ebola, en effet, les gants, c'est primordial pour se protéger. Mmh. Mais c'est surtout, dès qu'il y a un cas suspect, la première des choses, c'est surtout de le transférer au centre de traitement Ebola, où nous pourrons le prendre en charge. On ne demande pas à une ménagère de prendre en charge quelqu'un à la maison, certainement
oui.
pas.
Oui. Alors Arsène nous dit, la personne qui a guéri, qui était malade et qui est guérie, peut faire l'objet de la discrimination au sein de la communauté. Comment gérer ces genres de situations?
Alors pas seulement les patients, mais également le personnel de santé qui est sur place. Hein. Nous avons nos équipes, nos médecins sans frontières sur place, les équipes du ministère de la Santé. Mmh. Une stigmatisation qui est générale. Il y a une psychose qui est maintenant internationale et donc ça affecte beaucoup nos équipes, les équipes du ministère de la Santé et toutes les personnes vivant dans cette communauté.
Qu'est-ce que les gens pensent? Ils croient que c'est eux qui apportent la maladie?
Bah, c'est surtout qu'ils pensent qu'ils vont être contagieux pour toute la population et pour le monde entier. C'est un petit peu la psychose qu'on a aujourd'hui. Mmh. Le principal, c'est vraiment de respecter les règles, les procédures de protection. Donc notre personnel est extrêmement protégé. On a des règles très strictes à ce niveau-là. On essaie de protéger donc toutes les personnes aussi autour de nous qui collaborent dans la lutte contre cette épidémie. Nous on fait la sensibilisation, on espère que les communautés comprennent cette sensibilisation et que dès qu'il y a un cas suspect, qu'ils l'envoient au centre de traitement Ebola. C'est la chose la plus concrète qu'ils puissent faire pour lutter contre cette épidémie et nous aider pour ce faire.
Et Arsène dit, au niveau des écoles, que faire pour éviter la contamination parmi les enfants?
c'est le respect des règles d'hygiène élémentaires, lavage de mains, et voilà, c'est le plus important. Mais j'aimerais revenir, si tu permets, à la question concernant les patients qui sont...
Un instant, il y a un auditeur qui traîne depuis un moment, César Mourola, de Bukavu. Nous parlons du virus Ebola, comment prévenir la contamination. Appelez-nous pour participer au 081-890-63-94.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Virus Ebola, comment prévenir la contamination? On me fait signe, le réalisateur me dit que c'est fini, n'appelez plus, hein. On va terminer avec la question de César Mourola de Bukavu. Bonjour César.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à nos invités, bonjour aussi à tous nos auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question?
Oui, monsieur le journaliste, oui, j'avais aussi une petite question concernant le moyen préventif que nos deux invités viennent de donner à cette heure, et surtout en se basant sur la sueur. Et je ne sais pas si en Équateur on a aussi prévu quelque chose sur ce qui concerne les transports en commun, et notamment sur les motards, les motocyclistes, oui. Parce que il y a des fois, un client entre sur la moto, il porte la casque, et quand il va sortir en état, tout en état déjà sué, c'est l'autre qui prendra cette casque. Alors, je voudrais savoir si on a sensibilisé concernant aussi cet effet-là de porter les casques sur les motos, parce que j'ai entendu bien l'un de nos invités parler de la sueur comme étant aussi un moyen qui peut aussi contaminer les virus. Et bon.
D'accord, merci. Merci César Mourola de Bukavu. Docteur Papis, il y a Pascal d'Académie qui parle des singes. Il dit que les singes, les chauves-souris sont des réservoirs de ces virus. Alors, comment a-t-on découvert cela?
Ok. Je l'ai dit tantôt que le réservoir jusque-là n'est pas connu. N'est pas très bien connu jusque-là. Mais c'est vrai qu'après chaque épidémie, il y a des études qui sont faites avec les différents épidémiologues, anthropologues, il y a même des vétérinaires et autres qui après font des études beaucoup plus approfondies pour essayer de rechercher, de retrouver le réservoir et autres. Mais à ce jour, le singe n'est pas le réservoir puisque le singe souffre d'Ebola et en meurt. Donc le singe n'est pas le réservoir.
N'est pas le réservoir. Alors une autre question, si une personne guérit d'Ebola, elle peut garder des séquelles?
Voilà, je parlerai concrètement puisque là, il y a actuellement, comme je l'ai dit en début de mission, deux patients qui vont sortir du centre de prise en charge à l'Okolia. Ils sont très bien portants, très bien portants.
Et comment donc, ces patients seront accueillis dans la communauté? Ça, c'est aussi un problème.
Ok, maintenant, ça revient à répondre à la question, ou plutôt à préciser le fait que la lutte contre l'épidémie d'Ebola, c'est pluridimensionnel. Donc c'est pluridisciplinaire, ce n'est pas que le médecin, il y a également les logisticiens qui travaillent, il y a les chargés d'hygiène et d'assainissement et également les promoteurs de la santé et même les psychologues et les anthropologues. Donc là c'est le volet qui revient aux promoteurs de la santé pour expliquer à la population, au moment de décharger un malade ou de ramener celui-là à la maison, ils sont toujours accompagnés par des personnes qui expliquent que voilà, la personne qui rentre chez vous maintenant et n'a pas du tout de problème, il est guéri, il ne peut pas transmettre la maladie, il n'y a plus de danger du tout.
Est-ce qu'il y a un lien entre Ebola au Congo, à RDC, et Ebola en Afrique de l'Ouest?
Il n'y a aucun lien qui a été établi entre les deux virus, non. Je voudrais ajouter qu'au niveau du centre de prise en charge, hein, au niveau de l'Okolia de Boindé, nos patients sont accueillis là-bas. Ils sont également mis sous traitement. On les aide donc dans la douleur. On leur donne des médicaments pour les accompagner. On traite les symptômes. Donc on n'a pas de traitement pour soigner l'Ebola, mais on peut traiter les symptômes, c'est-à-dire réhydrater les patients, leur donner les médicaments nécessaires, les aider, les encourager. Et donc c'est pour cela que nous avons des médecins, des infirmiers sur place qui prennent soin de ces patients-là.
Donc l'Ebola n'a pas un traitement en soi.
Ensuite, il y a également des psychologues qui sont là pour les accompagner, eux et leurs familles, pour faire comprendre que ces personnes, pour ne pas stigmatiser justement les patients, on met en place toutes des mesures de protection pour les patients, également pour les accompagnants qui viennent les visiter. Donc on est là vraiment, on ne veut pas qu'il y ait une stigmatisation autour d'Ebola, on est là pour aider les patients, pour aider la population, et tout passe par la sensibilisation.
Et on parle de personnes contact et le contact tracing, c'est quoi? Pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, absolument. Donc toute personne qui est en contact avec un patient malade est une personne contact qu'il faut suivre. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui est décédée à un enterrement, il y a eu 20 personnes qui étaient autour de corps, qui a manipulé le corps, ces personnes sont des sujets contact que l'on doit suivre. On doit suivre pourquoi? Parce que s'ils développent des symptômes de la maladie, on doit être capable de les aider et de les prendre en charge pour qu'il ne soit pas contagieux pour d'autres personnes dans la communauté. Donc c'est ça le plus important maintenant. Donc il y a d'abord la prise en charge évidemment au niveau de Blokolia de Bouende, mais il y a également tout le travail au sein de la communauté qui est un travail très très difficile. Et donc avec le ministère de la Santé, avec Médecins Sans Frontières et d'autres partenaires, nous faisons ce travail pour réellement pouvoir arriver jusqu'à la dernière personne ayant eu le contact avec un patient d'Ebola pour contenir l'épidémie. C'est ça la lutte qu'on est en train de mener.
Bien, on va arrêter par ici. Cet entretien, un message en lingala, docteur Papi, c'est Ebola. Au Tsikutu, Kenaikuna na Bouende, na province Équateur. Alors, Balandinabi, c'est l'opinion des Sengelibaye, pour na ko prévenir tout, comme il batte là, na maladie Yamabe, Babengi Ebola.
Oui, de qu'on a vu ces Sengelibaye, Ebola Ezali. Eza bokono o ezali ko komi pesa to pe ko tambola na nzela ya ko simba ba liquide corporel pe ko mema maboko na sima na miso na munoko to pe na zolo pona koyeba na komi batela ezali koyeba na kosukula maboko lolenge oyo esengeli soki moto aza kobela bokono yango zinga na bino ezali komema ye na centre de santé bipai wapi akozwa ba soin oyo elongo bani soki moto awe na libota koyeba na kosimba simba nzoto
Il y a des gens qui sont en train de se faire.
Elingi koloba ete soki tozwi sango ete moto moko aza epa isongolo e kazana bilembo o etalisi ete za Ebola tokotinda bandeko bayeba na kopusa na pembeni na ye kotala soki réellement ezali bilembo etalisami na Ebola soki tomoni keza ndenge wana tokotinda motuka na bato bakozwa ba précaution nécessaire mpona koyeba na kozwa moto na mata na motuka pe tomema ye biso moko kino na centre ya traitement.
Bien, merci docteur Fapis Lame, médecin responsable d'antenne MSF à Kinshasa, pour ce message en lingala. Nous disons également merci à Nathalie Guillen, coordinatrice du pôle d'urgence de MSF à Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci jeudi. Très gentil.